Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You fell over your fellows, get clean like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. Do it as you like. You much ado about nothing. All you do is fight it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like...
Bonsoir.
Bonsoir. Nous sommes le mercredi. Nous sommes le mercredi 18 février. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Nous allons parler d'abord de la loi Macron.
Ouais, ensuite on parlera du procès de Dominique Strauss-Kahn.
Ensuite, ce sera garde à vue pour les anciens de Goodyear.
La chronique numérique, ensuite, parlera du cybercast du siècle et...
d'un agent de la NSA qui espionne vos disques durs.
Ensuite, il y aura la rubrique « Il faut que ça sache » par rapport aux migrations.
Et enfin, il y aura le fil d'Ariane.
La chronique juridique.
Et pour commencer, en bref...
En bref, on va commencer par une bien triste nouvelle. C'est 8 élèves flics qui, ce matin, aux alentours de 11h50, étaient en train de s'entraîner à la gestion des violences urbaines et qui ont été blessés. C'est bien malheureux, il y en a même deux qui sont blessés grièvement. Voilà, et ben on leur souhaite un... Non, on leur souhaite rien du tout.
Et ensuite, cet après-midi à Romans-sur-Isère, il y avait une manifestation après la mort d'un jeune de 14 ans dans une poursuite avec la police, mais qui n'était pas vraiment une poursuite. Il y a eu un millier de personnes. Et donc on commence avec la loi Macron, donc on va vous faire un petit résumé de 5 points importants dans la loi Macron, en commençant du, pardon, du moins pire au pire, ou un truc comme ça. Donc la loi Macron, c'est une loi qui est en train de passer en 49.3, on en parlera un peu après, qui donne lieu à une réforme du droit du travail. Donc notamment dans cette loi, on retrouve la mise au pas des prud'hommes, donc les conseillers prud'homaux seront maintenant désignés sur proposition des syndicats, et le président de la cour pourra éventuellement sanctionner un conseiller s'il l'estime pas suffisamment partial. Ensuite, il y aura l'augmentation du travail du dimanche, donc ça on en a beaucoup parlé, on passe de 8 dimanches par an à 12 dimanches. Il y aura la légalisation des délits patronaux. Alors là, c'est là que ça devient un peu rigolo, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les délits patronaux pouvaient emmener les gens devant un tribunal et donner lieu à des sanctions légales.
Et là, on parle de délits dans le genre entrave à la liberté syndicale.
Entrave à la liberté syndicale, des problèmes de licenciement, des trucs comme ça. Et en fait, maintenant, les patron pourrait négocier avec la DIRECT. La DIRECT, c'est la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Et ils pourront négocier avec eux une amende. Donc, en gros, ils pourront payer pour avoir le droit de passer outre le droit du travail.
Et ils vont pas s'en priver.
Et ils vont sûrement pas s'en priver, mais bon, ça, on peut pas leur en vouloir. Ensuite, il y aura le développement du travail gratuit pour les handicapés. Alors, les patrons pourront faire appel à des travailleurs handicapés venant faire une mise en situation en milieu professionnel. Donc c'est sympa, c'est pour leur faire découvrir la boîte. Ils ne seront pas payés et aucune obligation d'embauche ne suivra. Voilà. Et ceci remplacera l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés, donc ce qu'on appelait les quotas. Enfin, le plus drôle, donc il y aura... Donc jusqu'à présent, en droit du travail, c'était les accords de branche, la loi, enfin, le code du travail et la loi qui prédominaient. Et à partir de maintenant, ce sera les accords entre le patronat et ses salariés qui vont prédominer. Donc, a priori, travailler dimanche, la nuit, 12 heures par jour, 60 heures par semaine, ou tout ce que vous voulez sera désormais possible si le patron arrive à faire signer les syndicats.
Et non, bah oui, bah je vous en ai sûrement entendu parler. Cette loi est passée avec la avec le 49.3, mais on note quand même que sur l'ensemble de cette loi, on a un peu l'impression que jamais elle n'a été soumise au vote. Alors que ce soit par rapport à Macron qui a proposé cette même loi, par exemple, qui n'a jamais été élu dans quoi que ce soit, si peut-être à part comme délégué au collège vu sa tête. mais voilà, et le 49 et du coup son adoption par le 49.3 qui, on le rappelle, élimine tout vote par l'Assemblée nationale.
Ouais, puis en plus il y a quand même Valls qui a fait tirer la petite larme en disant, notamment aux députés frondeurs et aux autres socialistes qui voulaient pas voter le texte, disant oui mais quand même dans ce moment difficile la France a besoin d'être unie, patati patata, tout ça pour faire passer ce truc économique post-émotion Charlie, et il s'en est bien servi, ça a été parfait.
Donc, procès du Carlton de Lille. Donc, hier, à la fin des semaines de procès, dans ce qui a eu du mal à être qualifié de réquisitoire, le procureur a demandé la relaxe pure et simple de Strauss-Kahn. Donc, je fais un petit retour sur le procès, puisqu'on n'en a, nous, pas parlé. Pour mieux situer, un procès où la presse relate le témoignage d'une prostituée parlant d'un acte sexuel contre son consentement, pour lequel personne ne parle de viol. Voilà. Et donc là, je vais justement, même si c'est trash, lire un des témoignages qui a été lu, qui a été raconté à la barre pendant le procès. Donc il y a plusieurs travailleuses du sexe, notamment Jade et Emma, qui ont décrit des scènes de viol. Donc c'est parti. J'étais sur le ventre allongé sur le lit et lui était sur moi. Pendant notre rapport, j'ai senti que Deska tentait de me sodomiser. Je lui ai alors dit de ne pas continuer car je ne pratiquais pas la sodomie. Une autre prostituée est même intervenue en disant d'arrêter car je ne faisais pas ça, et puis il n'avait pas de produit lubrifiant. C'est alors que David Roquet est allé dans la salle de bain pour prendre un pot de crème hydratante. Je n'en revenais pas, David Roquet a donné ce pot de crème à DSK, puis il m'a tenu sur le lit pour que la sodomie puisse se réaliser alors que je ne voulais pas. Le rapport sexuel avec DSK s'est terminé par cette sodomie qui pour moi était violente. Et pendant le procès, le 11 février, Dominique Strauss-Kahn a répondu à une autre prostituée. Alors, je cite Dominique Strauss-Kahn. J'ai pensé qu'en tant que libertine, elle aimait danser dans un club et avoir une relation avec un client. Je ne mets pas en cause la perception qu'elle a eue de notre rapport sexuel. Mais je ne l'ai pas ressentie de la même manière. Je pense que je dois avoir une sexualité, je le découvre dans ce dossier, par rapport à la moyenne des hommes, plus rude. Mais j'ai exactement le même comportement sexuel avec toutes les femmes. Donc voilà, lui il parle de rudesse, et c'est bien d'une seule et même manière que DSK semble concevoir et goûter les relations sexuelles avec les femmes, par la violence. En d'autres mots, on pourrait aussi dire le viol. Donc je reviens à la défense par le procureur, étonnamment, parce qu'il a fait une plaidoirie plus qu'un réquisitoire. Puisque finalement, de ce que j'ai lu, personne n'avait à ce point défendu DSK, pas même ses avocats. Donc, contrairement aux autres prévenus, contre lesquels ont été requis des peines et des amendes, l'ex-directeur général du FMI n'aura le droit à aucun commentaire désapprobateur du parquet sur son comportement. Donc le procureur a nié ses implications, comme quoi il aurait payé des prostituées ou fait du proxénétisme. Les trois témoignages de prostituées qui racontent des scènes de sodomie forcée où elles pleuraient et manifestaient leur douleur et leur désaccord. Voilà ce que dit le procureur. J'ai été troublé par l'évocation récurrente des pratiques sexuelles de DSK. C'est le seul prévenu pour lequel on a poussé aussi loin le souci du détail, ce qui a pu être perçu par certaines femmes comme peu agréable et qualifié de rude par Strauss-Kahn lui-même, n'a pas été perçu comme aussi désagréable par d'autres. Dans ce domaine, les perceptions peuvent être très différentes. Donc vous voyez, à chaque fois on parle de perception, lorsqu'on pourrait aussi qualifier ça de viol. Donc ce qui est marrant, c'est, et peu étonnant, c'est que c'est une solidarité entre hommes blancs de la France d'en haut, qu'on peut voir, qui se fait. Et lors de l'instruction, une enquête pour viol avait été ouverte, puis classée sans suite. Donc le procureur, lors du procès, le rappelle, pendant le réquisitoire, aucune charge n'a été retenue contre DSK pour des faits de viol ou de violence, alors ne nous trompons pas de débat. Donc là, plus à mon avis, à notre avis ici, ce procès ne devrait pas être celui de la prostitution ni de la sodomie, mais celui de ce qui est décrit comme pouvant s'apparenter à un viol. S'il y a encore des personnes qui minimisent ce dont on accuse DSK, c'est parce que ces femmes n'étaient pas du même rang social. Et si on apprenait par exemple qu'une personne du même milieu que lui avait été un jour neutralisée sur un lit pendant que celui-ci la sodomisait de force, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, croyez-moi que les réactions auraient été différentes. Alors qu'une domestique des putes, ma foi, pas de quoi fouetter un chat. On se rappelle à titre d'exemple du livre « Troussage de domestique ». Donc dirigé par Christine Delphi, où ça raconte tous les ressorts du procès de DSK et notamment des histoires de classe. Et du coup, ça révèle quand même le problème de l'impunité, du pouvoir de l'argent et de la domination d'une classe sociale sur une autre. Et pour rappel, quand même, petit clin d'œil à la fin. C'est que le 30 et 31 mars va se dérouler au Sénat. Ils viennent d'annoncer qu'ils examineront de nouveau la proposition de loi pénalisant les clients de prostituées. Une loi qui devait être aux oubliettes.
Alors, les suites de la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens. Donc, mardi matin, 10 anciens salariés, membres de la CGT ou pas, avaient reçu une convocation de la police nationale pour des faits survenus avant le 22 janvier 2014, c'est-à-dire l'occupation de l'usine d'Amiens Nord et un coup de pression pendant 30 heures qu'avait subi la DRH et le directeur de l'usine. L'un des 10 convoqués ne s'est pas présenté, mais sera convoqué de nouveau en même temps que les autres, a-t-on précisé de sources policières. Les 9 autres ont été placés en garde à vue mardi matin. La plainte déposée par Goodyear a été levée dans le cadre de la négociation entre le syndicat et l'entreprise, mais le procureur d'Amiens a expliqué que Goodyear, personne morale, avait retiré sa plainte dans le cadre de... Donc, citation, Goodyear, personne morale, avait retiré sa plainte dans le cadre de la négociation avec la CGT, mais nous avions les plaintes de 2 directeurs victimes de la séquestration, pardon, dont on a fait l'enquête sur la plainte. Une 50aine de personnes se sont rassemblées dans le commissariat dans l'après-midi pour soutenir les ex-salariés concernés, qui ont finalement été libérés en fin d'après-midi. On attend toujours les suites de l'affaire.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Alors, un groupe de hackers, pour la plupart originaires de Russie, d'Ukraine et de Chine, ont braqué, accrochez-vous bien, entre 300 millions et 1 milliard d'euros à une centaine de banques dans 30 pays différents. Wow. Alors, sachant que beaucoup de banques n'ont pas voulu rendre public leur préjudice pour ne pas nuire à leur précieuse réputation, le butin serait donc bien plus proche du milliard, voire plus. Alors, il s'agit du plus gros cyberbraquage et peut-être même le plus gros braquage tout court de tous les temps. Alors pour ça, les braqueurs ont utilisé des procédés très sophistiqués. En gros, ils ont commencé par faire ce qu'on appelle du phishing. Alors c'est une technique très répandue qui, pour sa forme la plus connue, est un mail frauduleux. Vous en avez sûrement déjà dû en recevoir dans vos boîtes mail. Alors par exemple, c'est un mail avec un lien internet malveillant qui peut soit infecter votre ordinateur, soit vous faire croire que vous êtes sur un site de confiance type eBay, PayPal, etc. etc. Et donc voilà, mais il s'agit bien d'un faux site qui a été, c'est juste une copie afin de récupérer, alors vos mots de passe, vos identifiants, vos numéros bancaires, etc., etc. Alors là, les hackers, là où ils se distinguent un peu de ça, parce qu'en général, ce genre de mail est envoyé en masse à tout le monde, et c'est si jamais quelqu'un mord à l'hameçon, hein, tout son nom phishing, vous l'aurez compris. Alors là, les hackers ont ciblé très précisément des employés de banque pour pouvoir installer des mouchards pour avoir le fonctionnement de leur banque à l'aide du virus Carbanac, ça c'est son petit nom, qu'ils ont eux-mêmes créé et dissimulé dans un fichier Word. Alors avec ça, ils ont pu récupérer des mots de passe, ainsi que les protocoles de transfert d'argent qui varient d'une banque à l'autre, et plein d'autres infos. Ils pouvaient par exemple activer les micros sur les ordinateurs pour pouvoir écouter les conversations des personnes pour récupérer encore plus d'infos. Une fois qu'ils avaient que tout ce dispositif était en place, ils ont étudié pendant plusieurs mois chaque banque avant de l'attaquer, afin de connaître sur le bout des doigts leur principe de fonctionnement. Et une fois ce fonctionnement bien connu, ils créditaient sur des comptes de clients des banques de l'argent qu'ils faisaient sortir, du coup c'était de l'argent qui circulait en interne, hein, qu'ils faisaient sortir tout seul par le distributeur automatique de billets qu'ils avaient au préalable bien sûr piraté, hein, tout ça à distance. Du coup l'argent sortait à une heure donnée, et c'est à ce moment-là que un des hackers se pointait devant le distributeur automatique de billets et récupérait l'argent. Bon, alors c'est quand même pas mal, hein. C'est avec ça que, enfin, c'est une banque qui s'est rendue compte qu'un truc clochait quand elle a vu que un de ses distributeurs a vu de l'argent sortir tout seul. Bon, là, a priori, ils sont un peu merdés, ils sont peut-être pas allés le chercher, ils se sont dit merde, il y a un truc qui cloche. Donc les banques ont averti, bon, forcément la police, tout ça, tout ça. Un audit a été fait par l'éditeur d'antivirus Kaspersky, un éditeur russe qui s'est penché sur l'affaire et qui a pu déterminer le protocole dont je parlais juste avant là, des hackers ainsi que leur pays d'origine. L'éditeur collabore avec Interpol et Europol pour les aider dans leur enquête, pardon. Et de l'aveu même de cet éditeur de logiciels, c'est probablement, et là je cite, l'attaque la plus sophistiquée que nous ayons jamais vue en termes de tactique et méthode que les cybercriminels ont utilisé pour rester cachés.
Du coup, en bref, arrêtez de donner de l'argent à Kaspersky, quoi.
Ouais, moi ça après, arrêtez de donner de l'argent à tous les antivirus, parce qu'ils sont tous, ils font tous ça, quoi.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Et donc moi je vais vous parler d'un petit agent de la NSA, pardon, qui espionne vos disques durs. Donc cet agent s'appelle Fanny, parce que les geeks aiment bien donner des noms à leurs machins. C'est un petit programme informatique qui se loge au cœur même de la machine, dans le disque dur, dans les couches logicielles. Donc il a été implanté à la conception des disques durs. Donc, en gros, la couche logicielle, c'est le truc qui permet de faire fonctionner le disque dur lui-même. Il existe donc indépendamment du système d'exploitation, Windows, OS X, Linux, ou que sais-je encore, et est généralement indétectable de ce fait par les antivirus qui existent. Fanny a été repéré par la société informatique dont on vous parlait à l'instant, la Kaspersky, je sais pas, t'avais un très joli accent russe. Elle aurait été implantée sur des disques durs de plusieurs marques américaines, destinées à des marchés qui intéressaient de près le gouvernement américain, donc notamment l'Iran, la Russie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine, le Mali, la Syrie, le Yémen ou encore l'Algérie. mais on retrouve ce programme dans plus de 30 pays, dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour l'Europe. Donc ce programme est assez redoutable, puisqu'il permettait d'infecter n'importe quel terminal qui se retrouvait branché à l'ordinateur, clé USB, disque dur, que sais-je encore, et de fait d'espionner les faits et gestes sur l'ordinateur cible, et collecter n'importe quel fichier ou document. La NSA, bien sûr, officiellement, et les constructeurs disent qu'ils n'y sont pour rien. Ce qui fait dire que c'est la NSA, c'est que les chercheurs de Kaspersky ont remarqué de grandes similitudes entre ce ver et Stuxnet, qui était un bot qui avait été créé pour attaquer notamment les centrales iraniennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Un bot.
un bot, un robot, pardon, autant pour moi, qui était un robot qui avait attaqué les centrales iraniennes il y a un ou deux ans, je ne sais plus exactement, vous en avez parlé ici. Voilà, donc les fabricants disent qu'ils ignoraient l'existence de ce verre et que peut-être que le gouvernement américain aurait profité de marcher, passer entre eux et lui pour rajouter des lignes de code.
Et voilà la rubrique des migrations et des luttes sans papier à présent. On commence par l'Europe qui épingle la France sur son accueil des réfugiés. D'après le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, donc, la France est coupable d'insuffisances graves dans l'accueil des demandeurs d'asile. Une situation qui les oblige à vivre dans des conditions indignes. Le gouvernement doit notamment améliorer les conditions de vie à Calais et protéger les migrants de violences dont ils sont victimes. Autre défaillance soulignée, la prise en charge des mineurs isolés en France. Il y a entre 7 000 et 12 000 de ces enfants qui vivent en France, dont 3 000 notamment à Mayotte. Des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas suivis par un médecin. Certains vivent dans la rue alors qu'ils doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les tests osseux aussi sont pointés du doigt. Ceux qui servent à déterminer l'âge des mineurs isolés sont jugés peu fiables et certains enfants se retrouvent enfermés dans des centres de rétention avec les adultes. Le rapport appelle enfin la France à maintenir son engagement d'accueillir 500 réfugiés syriens sur les 2,5 millions qui ont quitté leur pays, voire à en accueillir davantage.
Et bon, on va continuer sur la lancée de l'accueil des migrants. Et là, c'est un gars de l'association Coup de pouce universitaire. Alors, une association qui a pour but d'aider les étudiants et du coup en difficulté. Du coup, ça fait que principalement, il s'occupe des étudiants étrangers. S'est rendu compte, alors, en se rendant sur place, de la file d'attente devant la préfecture, du coup par les étrangers eux-mêmes, et du temps d'attente insupportable que pour choper un ticket d'ordre de passage ensuite au guichet. Alors oui, là on parle bien de la file d'attente qui permet d'accéder au premier ticket où ensuite on va encore devoir attendre pour passer au guichet.
Celle-là même qui est à l'extérieur, il faut faire la queue à 3h du matin, même en hiver. Là.
Exactement. Et du coup, il y a quand même une partie des personnes qui arrivent à ce distributeur de tickets. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tickets pour aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour pouvoir recevoir tout le monde à la préfecture. Enfin, recevoir, c'est déjà un grand mot hein, quand même. Alors, et ben, c'est à ce moment-là que quand même cet ancien de Polytechnique, qui dans son esprit quand même bien cartésien, s'est dit qu'une solution simple existait, comme la capacité d'accueil de la préfecture est de 140 à 150 personnes par jour pour ce service. Il a donc décidé de distribuer des tickets devant la préf aux personnes qui attendaient son ouverture afin qu'elles ne fassent pas la queue pour rien. Logique, hein, je dirais. Malin. Hein.
C'est fou qu'on n'y ait pas pensé avant.
Bah, ouais. Bon, il avait quand même auparavant, hein, parce qu'il est polytechnicien quand même, on le rappelle, interpellé le préfet sur cette situation et avait proposé sa solution. Il n'a jamais eu de réponse. Bon, alors, de son aveu même, il avoue que dans un premier temps, c'était un peu la cohue, que les gens sont dans la merde, du coup, vous voulez absolument choper les premiers tickets et tout. Mais au final ça s'est quand même bien déroulé et voilà. Mais pour ce qui peut paraître du bon sens pour le commun des mortels, ça n'a pas du tout été le cas pour le préfet Carenco, qui a été particulièrement énervé de cette initiative. Alors, on se demande quand même bien pourquoi. Alors il a quand même d'abord qualifié Bernard Houot. Alors c'est lui qui est à l'origine c'est ce polytechnicien là qui est à l'origine de cette initiative. Il l'a qualifié d'urluberlu, pardon, et a déclaré, je cite, « Je ne crois pas à ce que dans ma République, qui est la nôtre, on délivre les titres comme au supermarché. » Bon, en l'occurrence, c'est quand même eux qui délivrent les tickets comme au supermarché, en premier lieu, hein, on le rappelle. Et alors là, je continue à citer, « S'il veut faire mon bourreau, il le fera en tôle. S'il recommence, je porte plainte pour usage de faux en écriture. » Voilà, Bernard Houot s'est quand même fait embarquer pour une heure au poste de police pour trouble à l'ordre public.
Il faut que ça se sache.
Et on va à Lampedusa à présent. Il y aurait au moins 3800 migrants africains partis de Libye qui ont été secourus en mer Méditerranée depuis vendredi. Alors ça dépasse déjà largement le total du mois de février 2014, qui était pourtant déjà une espèce d'année record, record glauque, mais record selon le décompte, de l'Organisation internationale des migrations. Une partie de ces migrants ont été conduits donc à Lampedusa, où se trouvaient encore la plupart des survivants de la tempête qui a coûté la vie à plus de 330 migrants la semaine dernière, qui sont disparus en mer ou morts de froid. Mardi matin, hier, le centre d'accueil de la petite île accueillait environ 1200 personnes, c'est-à-dire le triple de sa capacité, dont 200 mineurs et une centaine de femmes. Cette surpopulation crée de nombreux problèmes, et là je cite, parce qu'il n'est pas possible de garantir l'assistance nécessaire aux personnes qui arrivent, vêtements secs, nourriture, eau, carte téléphonique, soutien psychologique. C'est ce que dit Federico Rossi, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, à l'AFP. Il n'est pas possible non plus de séparer les hommes des femmes et des enfants, ni même d'isoler les personnes qui sont atteintes de la gale. Le centre de Lampedusa est conçu pour les situations d'urgence. Avant une évacuation vers les centaines de centres d'accueil établis sur tout le territoire italien. Mais lundi soir, alors même qu'un avion militaire évacuait plus d'une centaine de migrants, quelques 260 autres débarquaient au même moment. Sur place, le centre est en proie à une forte agitation, des mouvements de foule et des débuts de bagarres au moment de la distribution des repas, par exemple. Devant le centre, des habitants de l'île ont déposé des fleurs en hommage aux victimes de la semaine dernière, alors même qu'un balai d'ambulance témoignait de l'état de faiblesse des rescapés qui venaient d'arriver.
Le parquet d'Evry a décidé de classer sans suite l'enquête préliminaire pour discrimination qui concernait le maire de Champlan, c'est dans l'Essonne, le maire qui était accusé d'avoir refusé d'enterrer un bébé rom dans le cimetière de sa commune. C'était fin décembre, entre Noël et le jour de l'an. Peut-être on s'en souvient, enfin voilà, on en avait parlé ici vite fait, mais donc voilà, le bébé était mort. Et le maire avait dit non, pas chez nous, il n'y a qu'à être enterré ailleurs. Il a finalement été enterré au cimetière de Wissou, qui est un bled à côté.
On dit Wissou à Paris.
Ok,
attention,
alors le cimetière de Wissou.
Attention, lyonnais.
Toujours est-il que voilà, il y a eu le parquet a fini par décider que effectivement le maire avait pris une décision illégale puisque le bébé habitait dans la commune, en l'occurrence dans un bidonville, mais malgré tout c'était l'endroit où il habitait, et que du coup un maire ne peut s'opposer à l'inhumation d'un défunt dans la commune soit où ce défunt habitait, soit dans la commune où il est mort, soit dans la commune où se trouve un caveau familial. En l'occurrence donc le bébé habitait là. Donc le maire a bien pris une décision illégale, mais dit le parquet, il ne s'agit pas d'une attitude qui aurait sa source dans une volonté malveillante ou discriminatoire. Donc voilà, certainement le maire, ça ne devait pas être lié au fait que le bébé était rom. En tout cas, on peut toujours dire que le parquet a eu raison de classer l'affaire sans suite, parce que le parquet est certainement très très occupé à poursuivre pour terrorisme tous les clodos et les pochetrons qui crient vive Kouachi à des voitures de flics qui passent, et donc il n'a pas du tout de temps à perdre à s'occuper de savoir dans quel trou on va mettre un rhum qui est mort.
Alors bonsoir, c'est le fil d'Ariane, c'est-à-dire qui intervient une fois par mois dans le Canu Info du mercredi. Merci d'ailleurs au Canu Info de nous accueillir. Nous, on est un collectif de 4 avocates qui avons eu envie de partager nos connaissances et nos expériences juridiques et donc d'essayer de donner des billes pour mieux comprendre et appréhender le monde du droit et de la justice, avec à chaque fois l'idée de partir sur un thème précis. Et aujourd'hui, on va parler de la séparation parentale.
Alors, de quoi allons-nous parler exactement ? La présente émission va se concentrer exclusivement sur la séparation d'un couple non marié qui a eu des enfants et sur les conséquences pour ces enfants. On ne parlera pas des situations de divorce, car dans ce cas, l'avocat est obligatoire. Donc les personnes qui peuvent être confrontées à une procédure de divorce seront nécessairement conseillées sur tous les points concernant les enfants. D'où notre choix de concentrer l'émission sur la séparation des couples qui n'étaient pas mariés. On va ainsi parler d'une situation malheureusement très courante et qui peut donner lieu à de nombreuses questions. Quelles questions peuvent être posées lorsque on décide de se séparer de son conjoint avec lequel on a eu des enfants ? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sépare et qu'on a des enfants ? Doit-on aller voir le juge ? Peut-on aller voir le juge ? Doit-on avoir un avocat ? Et devrons-nous avoir un avocat ? C'est-à-dire, est-il préférable d'avoir un avocat ? Comment faire pour les enfants ? Comment organiser l'hébergement de l'enfant ? Les droits de visite de l'enfant ? La résidence de l'enfant ? Et qu'est-ce que la pension alimentaire ? Tous ces points seront donc abordés au cours de l'émission.
Alors du coup, la première question, c'est quand on se sépare, qu'est-ce qu'il faut organiser ? À quoi il faut penser ?
Alors, sur cette première question, une première définition déjà pour bien savoir de quoi on parle, c'est celle de l'autorité parentale, puisque c'est une notion qu'on utilise souvent. Juridiquement, l'autorité parentale, c'est le pouvoir, mais aussi les devoirs, et surtout les devoirs, des parents à l'égard d'un enfant mineur, donc jusqu'à sa majorité, avec l'idée derrière cette notion toujours de la protection de l'enfant. Le Code civil d'ailleurs définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Alors, pour illustrer, pour avoir quelques exemples de ce que ça représente en pratique, c'est toutes les décisions qui sont prises par les parents au niveau médical, par exemple, sauf bien sûr les soins en urgence, la gestion des biens d'un enfant mineur, la question de la scolarité, de l'éducation de l'enfant, avec cette spécificité s'agissant de l'autorité parentale sur l'éducation, qui est que les parents, et y compris les parents séparés, ont tous les deux le droit de surveiller la scolarité de leur enfant et d'être informés directement par l'établissement scolaire, notamment des résultats scolaires, donc envoi des relevés de notes, puisque c'est une question qui se pose souvent en pratique. Les deux parents qui exercent l'autorité parentale ont tous les deux le droit d'être informés et de recevoir les relevés de notes de leur enfant. Alors, toujours sur cette définition de l'autorité parentale, également rappeler que le principe, c'est l'exercice commun de l'autorité parentale, c'est-à-dire que quelle que soit la situation des parents, qu'ils soient séparés ou non, que l'enfant vive uniquement avec un parent ou avec les deux parents vont toujours exercer en commun l'autorité parentale par principe, c'est-à-dire qu'ils vont toujours participer et tous les deux être informés de tout ce qui relève de l'autorité parentale. Et ce n'est que par exception qu'on a un exercice exclusif de l'autorité parentale, mais il s'agit d'une hypothèse rare puisque c'est déjà par décision de justice, donc il faut qu'un juge intervienne et estime que c'est nécessaire, et surtout par rapport à l'intérêt de l'enfant. Donc on pense notamment aux hypothèses de violence ou de désintérêt mais caractérisé, manifeste, d'un des parents par rapport à son enfant.
S'agissant maintenant du lieu de résidence des enfants, c'est une des questions que les personnes non mariées peuvent se poser lorsqu'ils ont des enfants et qu'ils décident de se séparer. On a tendance à parler, dans le langage courant, de garde, la garde des enfants. Qui va avoir la garde des enfants ? En réalité, il faut parler de résidence. Dans les textes de loi, il s'agit d'ailleurs de résidence des enfants et non de garde. On peut, pour s'en souvenir, penser que, en parlant de résidence, on met l'enfant au centre des questionnements. Tandis que la garde, c'est les parents qui vont avoir la garde. Ça concerne les prérogatives des parents. Lorsque deux parents se séparent, il faut porter un intérêt tout particulier à l'enfant et donc se pose la question de sa résidence. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est celle de l'organisation de la résidence des enfants en cas de séparation des parents. Il y a en quelque sorte deux modèles concernant l'organisation de la résidence des enfants. Une résidence fixée chez l'un des deux parents ou une résidence alternée. S'agissant tout d'abord de la résidence fixée chez l'un des deux parents, lorsque les parents décident de fixer la résidence de l'enfant chez un des deux, il est possible d'organiser, heureusement, un droit de visite et ou un droit d'hébergement pour l'autre parent. Le cas le plus courant, on parle d'un droit de visite et d'hébergement classique. C'est-à-dire que le parent qui n'héberge pas de façon continue l'enfant va avoir un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C'est donc le droit de visite et d'hébergement classique. Mais il est également possible d'élargir ce droit de visite, par exemple en indiquant, en se mettant d'accord pour que le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant puisse visiter son enfant le mercredi, puisse également héberger son enfant le mercredi soir. Voilà, là on parle de droit de visite et d'hébergement élargi. Si la situation est plus compliquée, il est possible également de fixer un droit de visite simple. Plusieurs motifs peuvent mener à cette décision. Par exemple, lorsque l'hébergement n'est pas possible, lorsque deux personnes se séparent et que un des parents quitte le domicile familial, il est possible que ce dernier, dans un premier temps, n'ait pas la possibilité d'héberger son enfant. Des motifs également liés aux rapports qui peuvent être compliqués entre le parent qui n'a pas la résidence et les enfants. La situation peut également être plus compliquée lorsque un des parents manifeste une certaine fragilité et qu'il n'est peut-être pas préférable que ce parent ait un droit d'hébergement. Dans les situations encore plus délicates, le droit de visite peut être fixé dans un lieu neutre, c'est-à-dire hors du domicile des deux parents, mais dans une association et en présence, si nécessaire, d'une tierce personne. Il y a des situations en effet qui sont délicates et où la présence d'un médiateur, d'une personne extérieure à l'environnement familial, une personne professionnelle peut être nécessaire pour maintenir les liens entre ce parent et les enfants. Par exemple, lorsqu'il y a eu des violences entre un parent et un enfant, ou alors une situation aussi qui arrive lorsqu'un parent a été absent pendant un certain temps et qu'il peut paraître primordial qu'une autre personne soit présente dans le cadre des visites pour pouvoir rétablir la confiance entre ce parent absent ou mettre des limites quand la situation devient compliquée. Désormais, le deuxième cas, celui que j'avais annoncé, le cas où la résidence est alternée, c'est-à-dire le cas où l'enfant va passer une semaine chez la mère, puis une semaine chez le père et la moitié des vacances chez l'un et l'autre des parents. Il est aussi possible, dans ce cadre-là, d'envisager un autre type de résidence alternée, par exemple 15 jours, 15 jours. Donc voilà les deux grands modèles de résidence des enfants lors de la séparation des parents. Soit on fixe la résidence chez l'un des parents, mais on aménage quand même le droit de visite et d'hébergement chez l'autre, soit on s'accorde à instaurer une résidence alternée.
Alors, l'autre question à régler quand des parents se séparent, ben, c'est la question de l'argent. Une question qui est bien évidemment assez sensible et qui est souvent finalement un peu le point de désaccord entre les parents. Alors, pourquoi il y a la question de l'argent à régler? Parce que, bon, ça on le sait, dans le code civil, ce qui est prévu, il y a un certain nombre d'obligations alimentaires qui sont prévues. Et il y a notamment une obligation alimentaire d'un parent à l'égard de ses enfants. Alors, généralement, cette obligation alimentaire, elle est évidente. On va dire quand les parents sont toujours ensemble. Les parents subviennent tous les jours aux besoins de leurs enfants, ça pose pas de difficulté, mais quand les parents se séparent, se pose alors la question de comment va se régler cette obligation alimentaire, alors qu'il y a assez souvent un parent chez lequel ne vivent pas les enfants, puisque comme l'a expliqué Madeleine, il y a des cas où la résidence des enfants est fixée chez un des parents, ce qui veut dire que quasiment les enfants ne sont chez l'autre parent qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc dans ces cas-là, il faut prévoir le règlement de ce qu'on appelle une pension alimentaire. Donc c'est une somme d'argent qui va être réglée par un parent à l'autre parent pour que ce parent puisse subvenir au quotidien aux besoins de ses enfants. Alors la question c'est comment elle est déterminée cette pension alimentaire ? Les textes de loi prévoient qu'elle est déterminée en fonction des ressources du parent qui n'a pas la résidence des enfants et en fonction des besoins de l'enfant. Alors, ce qu'on entend par ressources des parents, ça va être, il faut le savoir, le revenu imposable. Je précise ça, puisque souvent, quand on arrive devant le juge, les gens vont, par exemple, expliquer qu'ils ont un revenu net à payer de temps, ou alors qu'ils touchent tant tous les mois, et puis après, il y a la prime, le 13e mois, etc. Mais bon, c'est bien le revenu qui apparaît sur la feuille d'imposition comme revenu imposable, qui est pris en compte par le juge. Et puis, les besoins de l'enfant, c'est les besoins de la vie de tous les jours, mais ça peut être parfois des besoins un petit peu particuliers. Il faut savoir que pour fixer la pension alimentaire, il existe un barème qui a été mis en place par le ministère de la Justice et qu'on trouve sur Internet. Il faut savoir que ce barème, c'est important de le préciser, c'est un barème qui n'est pas obligatoire et qui ne s'impose pas notamment aux juges et qui est vraiment un barème indicatif et qui ne tient pas compte des particularités de chaque situation, mais ça peut aider un peu les gens quand ils ne savent pas trop, en fonction de leur revenu, qu'est-ce qu'ils devraient payer comme pension alimentaire, en fonction du nombre d'enfants et puis des modalités de résidence. Ça leur permet quand même d'avoir une petite idée pour pouvoir discuter directement entre eux. Mais bon, la pension alimentaire, encore faut-il avoir les moyens de la payer. Donc il est bien évident que si le parent qui n'a pas la résidence des enfants n'est pas en mesure financièrement de payer une pension alimentaire parce que, par exemple, il perçoit uniquement le revenu de solidarité active, à ce moment-là, il n'est pas obligatoire de prévoir une pension alimentaire. Et dans ce cas-là, il faut savoir que c'est souvent la CAF, en fonction de la situation de l'autre parent, qui va un peu prendre en charge les besoins des enfants et va verser ce qu'on appelle une allocation de soutien familial. Mais bon, c'est quand même dans des conditions un petit peu précises. Ce qui se pose aussi comme question quand on parle de la question de la pension alimentaire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des frais exceptionnels pour les enfants ? Parce que la pension alimentaire, c'est quelque chose qui est fixé, c'est un montant qui est versé tous les mois, mais il peut y avoir des frais exceptionnels, par exemple les enfants qui vont faire un voyage scolaire, ou qu'il va y avoir des soins médicaux qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle. On pense souvent, c'est ce qui revient assez souvent, c'est les enfants qui ont besoin à un moment donné à l'adolescence d'un appareil dentaire, comment on fait dans ces cas-là ? Là, il y a deux possibilités. Soit on a une décision de justice qui a prévu que ces frais-là, ces frais exceptionnels, s'ils sont décidés en tout cas par les deux parents, sont partagés par moitié. Donc ça vient en plus de la pension. Soit il n'y a pas de décision et à ce moment-là, il faut que les parents se mettent d'accord parce que si un parent veut que l'autre prenne en charge certains frais que l'autre ne veut pas, s'il n'y a rien qui l'y oblige, il n'est pas obligé de le faire. Et il peut très bien dire « moi je paye la pension alimentaire » et c'est tout. Et puis la dernière question qui se pose sur cette question de la pension alimentaire, souvent c'est une question qui revient, c'est jusqu'à quand on règle cette pension alimentaire ? Qu'est-ce qui se passe quand les enfants deviennent majeurs ? Alors, pendant la minorité de l'enfance, c'est évident que donc les deux parents doivent contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. Pour les enfants majeurs, le critère le plus connu, c'est la poursuite d'études. Ça veut dire qu'effectivement, tant qu'un enfant majeur poursuit des études et est à la charge d'un de ses parents, l'autre doit continuer à payer une pension. Mais ce n'est pas la seule, c'est pas la date limite non plus, la poursuite d'études, parce qu'on a quand même... on le sait, ça devient de plus en plus difficile quand on sort des études de trouver tout de suite du boulot. Donc il y a beaucoup d'enfants majeurs qui ont un certain âge et qui ont fini leur cursus, mais qui n'ont pas tout de suite de travail. Et donc une pension alimentaire peut continuer à être due par l'autre parent si l'enfant majeur il n'est toujours pas autonome financièrement. Et il est à la charge d'un de ses parents.
Ça marche. Et justement, une fois qu'on a à peu près travaillé sur toutes ces questions-là, quels sont les moyens pour parvenir à un accord ?
Alors, il y a plusieurs moyens pour parvenir à un accord parce que il faut savoir qu'on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas obligé, et on le verra, on n'est pas obligé d'aller devant un juge, et que dans ce domaine familial qui est quand même un domaine délicat, c'est quand même bien si finalement les parents se mettent d'accord. Et d'ailleurs, ça arrive quand même assez souvent que les gens arrivent encore à discuter même s'ils se séparent et à essayer de trouver des solutions ensemble. Mais si le dialogue est compliqué, il y a plusieurs possibilités. Il y a tout ce qui concerne la médiation familiale. Alors la médiation familiale, c'est un processus en fait de discussion avec un professionnel. Donc c'est une personne qui est spécialement formée à faire discuter les gens ensemble et à essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, c'est des entretiens qui ont lieu. D'abord des entretiens d'information, après des entretiens de médiation où on va essayer, les parents vont essayer directement avec un médiateur de trouver un accord et ça peut aboutir à la signature de protocole d'accord. Par contre, il y a aussi d'autres possibilités, c'est que si chacun des parents, quand ils se séparent, chacun a un avocat, les avocats sont aussi formés sur les questions de discussion et de médiation, et on peut essayer de trouver un accord. On fait souvent ce qu'on appelle des réunions à quatre, ça veut dire qu'il y a les deux parents et les deux avocats, et on essaie de trouver des solutions ensemble, avec parfois des techniques un peu particulières, parce qu'on est notamment de plus en plus formés dans ce qu'on appelle le droit collaboratif, qui est une méthode un peu de discussion et de négociation qui nous vient du Canada et qui peut permettre justement de parvenir à un accord, même si au départ la situation était tendue. Simplement pour une petite information pratique pour les gens qui voudraient avoir justement plus de renseignements sur ces modes de règlement amiable des conflits, c'est comme ça qu'on les appelle, le barreau de Lyon, donc c'est l'institution qui représente les avocats à Lyon, a mis en place, a créé ce qu'on appelle un centre de justice amiable des avocats, et c'est un lieu où les gens peuvent venir obtenir des informations pratiques et être orientés sur toutes les possibilités de règlement amiable des conflits. Et il y a deux permanences, deux après-midi par semaine, donc c'est gratuit. Il faut simplement téléphoner, peut-être prendre rendez-vous pour avoir des informations là-dessus.
Et donc, si par exemple qu'une solution amiable est trouvée, ou lorsqu'on a trouvé un accord, est-ce qu'il faut obligatoirement aller devant un juge, et comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?
Alors, pour répondre à cette question, d'abord se pose la question vraiment de quel juge va être amené à trancher sur ces questions-là. Alors, c'est le juge aux affaires familiales, qui est un juge spécialisé, chargé des questions relatives au divorce ou à la séparation des couples non mariés. C'est un juge qu'on rencontre en principe seul, sauf formation collégiale, et à huis clos. Donc, il faut bien savoir que c'est un juge donc aux affaires familiales spécialisé, et non pas un juge pour enfants, même si ce juge va être amené à regarder quel est l'intérêt de l'enfant, quelle est la situation de la famille par rapport à l'enfant. Mais ce n'est pas un juge pour enfants qui, lui, est spécialisé plutôt pour les problèmes de l'enfance, que ce soit au niveau pénal ou au niveau de la protection de l'enfance en danger. Alors, autre question aussi, c'est non seulement quel juge, mais où est-ce qu'on se rend, sachant que chaque tribunal est responsable d'affaires sur un ressort géographique, sur un territoire. Alors ici, le tribunal, le juge qui va être amené à trancher l'affaire, c'est le juge du lieu de résidence habituel des enfants, ou de l'enfant s'il n'y en a qu'un, et pas celui des parents. Donc c'est bien ce juge-là qui va décider de l'affaire. Devant le juge, on a deux possibilités. Soit les parents ne sont pas d'accord, et dans ce cas-là, le juge va prendre les deux positions, entendre les deux, et va ensuite rendre une décision, donc trancher entre ces deux positions. Soit, autre possibilité, c'est bien sûr la meilleure, les parents sont d'accord sur l'organisation de la situation familiale, et le juge va homologuer cet accord entre les parents dès lors qu'il estime que cet accord respecte toujours l'intérêt de l'enfant. Alors, pour répondre maintenant à la question, est-ce qu'il est obligatoire d'aller devant un juge ? Alors non, il n'est pas obligatoire d'aller devant le juge, notamment si les parents sont d'accord. Mais première chose, il est toujours plus sûr d'avoir un jugement qui fixe les choses, notamment pour avoir un cadre de référence en cas de difficulté, sachant que dès lors qu'on s'entend et qu'on arrive à se mettre d'accord sur les choses, c'est ce principe-là qui va prévaloir, et ce n'est qu'en cas de difficulté ou s'il y a une incertitude qu'on va se référer au jugement. Et aussi, deuxième mais, c'est que parfois un jugement est exigé, et notamment de la CAF, pour le versement des allocations familiales et de certaines prestations sociales, et notamment le RSA. Donc c'est une exigence qu'on rencontre souvent. Et puis, dernière petite observation, c'est simplement attirer votre attention sur le fait que dans les critères que va prendre en compte le juge dans sa décision, il va regarder la pratique et ce qui a pu être mis en place par les parents avant qu'ils viennent devant lui. D'où l'importance, tout d'abord, avant d'organiser les choses et de les mettre en place, peut-être d'en discuter et de prendre différents conseils sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est favorable de faire par rapport à l'intérêt de l'enfant, et surtout, bien faire attention si on n'est pas d'accord, à ne pas mettre en place quelque chose qui ne satisfait pas les parents ou qui ne correspond pas aux besoins de l'enfant, pour ensuite aller devant le juge demander autre chose, puisque le juge va, dans les critères sur lesquels il va trancher, prendre en considération la pratique, donc ce qui existe au moment où on se présente devant lui.
Alors, quelles sont les informations pratiques qu'il faut avoir en tête lorsque on souhaite aller devant le juge ? Tout d'abord, pour saisir le juge, il convient de déposer une requête. Il est possible de déposer une requête avec ou sans avocat. Comme il a été dit au début de cette émission, les parents qui n'ont pas été mariés peuvent aller devant le juge sans avoir recours à un avocat. Si on fait le choix de ne pas prendre un avocat, il convient d'aller au greffe du tribunal de grande instance, et plus particulièrement au greffe de la chambre de la famille, qui vous transmettra alors un formulaire que vous devrez remplir et qui vous transmettra toutes les informations nécessaires que vous devrez savoir pour mener à bien cette procédure devant le juge des affaires familiales. Il est possible de déposer une requête seule ou conjointe. C'est-à-dire que si les deux parents se mettent d'accord sur les mesures, il est possible de faire une requête ensemble. Par contre, s'il y a un désaccord, il est aussi tout à fait possible de déposer une requête seule. S'il y a une saisine du juge, il est important de constituer un dossier et de constituer un dossier avec des pièces. Il faut toujours pouvoir justifier ce qu'on soutient, ce qu'on demande. S'il y a un litige avec l'autre parent, il est d'autant plus nécessaire de constituer un dossier solide pour justifier sa position. C'est-à-dire qu'il vous sera bien conseillé d'apporter plusieurs attestations de proches, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire les amis, c'est-à-dire aussi, vous pouvez aussi demander aux professeurs qui connaissent l'enfant, les médecins qui connaissent l'enfant, toutes les personnes qui sont à même de bien pouvoir connaître la situation familiale. Notamment, il faudra apporter de nombreuses pièces financières pour pouvoir justifier d'une demande de pension alimentaire. Il peut être nécessaire et utile d'avoir un avocat dans deux situations, à notre sens, lorsqu'il y a un désaccord et lorsqu'il y a un doute sur les mesures décidées. C'est-à-dire que lorsque deux personnes ne sont pas d'accord, c'est toujours utile d'avoir une personne, un tiers, donc ça peut être donc l'avocat, qui est à même de pouvoir bien défendre les intérêts de cette personne. Il est aussi utile de prendre un avocat lorsqu'on n'est pas sûr du bien fondé, lorsqu'on n'est pas sûr des mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Comme disait Sophie, lorsqu'on passe devant le juge regarde la pratique. Or, si on n'est pas à l'aise avec la pratique qui a été instituée depuis la séparation, il faut pouvoir prendre un avocat pour pouvoir au mieux transmettre, communiquer sur ce qui nous paraît le mieux pour l'organisation familiale. Aller devant le juge, c'est un moment important. Et une fois qu'un jugement a été pris, il n'est pas évident de revenir sur les mesures qui sont fixées dans ce jugement.
Juste pour compléter, pour savoir justement sur le passage devant le juge, il faut savoir, parce que c'est quand même important, que c'est une audience qui se passe à huis clos. C'est une procédure aussi qui est orale, donc ce qui compte, c'est, bon, on amène les pièces, etc., mais quand on est devant le juge, ce qui compte, c'est ce qu'on dit à l'audience. Donc ça veut dire que quand on n'est pas à l'origine de la saisine du juge, ça veut dire quand on n'a pas soi-même déposé la requête, attention, quand on reçoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, il faut bien aller à l'audience, parce que si on ne va pas à l'audience et qu'on n'est pas représenté à l'audience, on n'a pas pu faire valoir ses arguments, donc c'est important de le savoir.
Eh bien, on va se faire une petite pause musicale et on va écouter Marilyn Rambo et ce sera le morceau Zouk Machin.
Alors une fois qu'on a essayé de saisir le juge, on sait que ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'urgence ?
Effectivement, c'est une question qui est importante parce qu'il faut savoir qu'à Lyon en tout cas, donc je ne vais pas parler pour toute la France, même si je sais qu'il y a plein d'autres villes où c'est compliqué, il y a une réalité qui est quand même importante, c'est de savoir qu'entre le moment, si la situation est compliquée, qu'on n'a pas pu trouver d'accord et qu'on décide d'aller saisir un juge pour faire fixer et organiser la séparation, entre le moment où on saisit le juge et on dépose sa requête et le moment où il va y avoir avoir l'audience et même la décision du juge, il peut se passer parfois presque un an. C'est une réalité qui est compliquée, en tout cas à l'heure actuelle, au tribunal à Lyon, en tout cas le tribunal qui concerne les affaires familiales, parce qu'il y a énormément d'affaires, parce qu'il n'y a pas assez de juges. Voilà, c'est un problème qui traîne depuis des années et qui évidemment ne s'améliore pas. Et donc, quand il y a une urgence, même si au bout d'un moment, tout devient urgent, mais il y a des urgences encore plus urgentes, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Alors, des urgences, ça va être, par exemple, quand il va y avoir des violences conjugales, quand il va y avoir des parents qui se sont séparés, et puis un parent qui empêche l'autre parent de voir ses enfants, qui lui accorde aucun droit de visite et d'hébergement d'un commun accord. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Il faut savoir qu'il existe donc des procédures d'urgence. Alors, il y a ce qu'on appelle les référés, et il y a aussi une procédure qui est assez connue, parce qu'elle est née d'une loi de 2010, c'est l'ordonnance de protection, là c'est en cas de violence conjugale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long, mais il faut savoir que tout ça, ça existe, mais qu'il faut remplir des conditions et que de toute façon, quand on est dans des situations aussi compliquées, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des associations, vers des avocats, mais en tout cas vers des professionnels pour être assisté dans ces démarches.
Et une fois que le juge s'est prononcé, puisque c'était le but d'aller devant lui, quelles sont les conséquences d'une décision du CIR qui organise la séparation ? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas la décision du juge ?
Alors, il faut distinguer deux choses pour ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement. Si le parent qui a la résidence habituelle des enfants à son domicile, donc là où les enfants vivent, ne respecte pas le jugement, ça peut être constitutif du délit de non-présentation d'enfants, donc un délit prévu par le code pénal et pour lequel on peut être condamné devant un tribunal correctionnel. Autre conséquence très pratique également, ça c'est du côté du parent qui n'exercerait pas le droit de visite qui a été prévu par le jugement, c'est tout simplement qu'avec le temps, l'autre parent risque de demander au juge, puisqu'on peut toujours demander au juge de réexaminer une situation dès lors qu'il y a un enfant mineur qui est concerné, l'autre parent risque de demander au juge de supprimer ce droit de visite pour le parent qui ne l'exerce pas ou qui ne le respecte pas selon les modalités qui ont été prévues par le jugement. Deuxième aspect, c'est s'agissant de la pension alimentaire. Là, si le parent qui doit payer cette pension alimentaire, donc selon le jugement, ne respecte pas cette obligation, il y a deux possibilités d'action pour l'autre parent, deux possibilités qui sont cumulables. Première chose, c'est tout d'abord, ce parent a besoin éventuellement de l'argent pour les besoins de l'enfant, et donc il va aller chercher l'argent si l'autre parent ne le respecte pas, en demandant ce qu'on appelle une mesure d'exécution forcée. Donc, très concrètement, il va demander un huissier de justice ou alors la CAF va faire cette démarche d'aller chercher l'argent soit sur le salaire du parent qui ne respecte pas ou en tout cas sur les revenus de ce parent. Et deuxième conséquence en cas de non-paiement de la pension alimentaire, c'est toujours au niveau pénal puisque le fait de ne pas respecter l'obligation alimentaire pour son enfant, donc de ne pas payer la pension alimentaire, est également constitutif d'un délit qui est l'abandon de famille. Donc là encore, le parent peut déposer plainte auprès de la police et le procureur peut décider de poursuivre suite à cette plainte et un tribunal correctionnel peut prononcer une condamnation donc pour abandon de famille. Pour résumer, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le fait de ne pas respecter un jugement du juge aux affaires familiales peut avoir des conséquences et des conséquences graves pour le parent qui ne respecte pas. Et sachant aussi que par contre, s'il n'est pas possible pour ce parent de respecter ce jugement parce que sa situation a évolué, parce que la situation de l'enfant, de la famille a évolué d'une façon générale, il ne faut pas non plus rester coincé avec ce jugement qui ne correspond plus donc à sa situation, et il ne faut pas hésiter à ressolliciter le tribunal, le juge, pour faire modifier donc les dispositions qui avaient pu être prises, sachant que pour faire cette démarche, par contre, il faut bien qu'il y ait une évolution, donc un élément nouveau dans la situation de la famille qui justifie qu'on revienne devant le juge pour présenter ces choses-là.
Et on va finir avec notre petite rubrique du mot rigolo, le mot juridique rigolo. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé de mariage, mais on va quand même parler du mariage putatif. C'est quelque chose qu'on trouve jamais, mais ça fait partie des expressions un peu marrantes, en tout cas enfin, pour nous les juristes. Donc le mariage putatif, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est quand un mariage est annulé, parce que ça peut arriver qu'un mariage soit annulé, des gens se sont mariés, puis il y a une annulation du mariage, mais que soit un époux, soit les deux époux en fait étaient de bonne foi en se mariant. Donc quand un époux est de bonne foi, c'est par exemple un époux qui savait pas que la personne avec laquelle il allait se marier était déjà mariée. Manque de chance, du coup ça ressort le fait que la personne était déjà mariée, donc le mariage est annulé. Et pour cette personne, le mariage putatif, c'est quand on considère que le mariage va quand même garder ses conséquences, enfin la personne va continuer à bénéficier des conséquences du mariage, parce qu'un mariage implique un certain nombre de choses au niveau juridique, et qu'elle va pouvoir toujours bénéficier de ses conséquences, pas pour l'avenir, mais en tout cas jusqu'à l'annulation du mariage, et pour qu'il n'y ait pas une annulation rétroactive du mariage avec tous les effets rétroactifs de l'annulation du mariage. Voilà.
Merci. Voilà, donc c'était le fil d'Ariane. La prochaine émission qui aura lieu le 18 mars à 19h30 sera sur les expulsions locatives, puisqu'on ne sera pas très loin de la fin de la trêve hivernale.
Et est-ce que vous avez un mail très très vite fait? Où on peut vous... Toujours non,
pas encore. Et bientôt on aura un blog et tout.
Et il est 20h, on va vous mettre un tout petit peu de bande continue, le temps qu'Idée Noire puisse s'installer dans le studio. On les remercie pour ces minutes de retard. Et merci de nous avoir écoutés.
Qui parlait d'elle-même.